Ces dernières semaines, j'ai relu le Pentateuque et je voudrais donc m'arrêter ce matin sur un de ses personnages principaux. Son nom apparaît 700 fois dans l'Ancien Testament et 80 fois dans le Nouveau. Vous aurez probablement deviné qu'il s'agit de Moïse. Je ferai un survol d'une partie de sa vie pour en tirer quelques enseignements pour nous aujourd'hui. Moïse naît à une période critique pour le peuple hébreu dont il fait partie. Comme Dieu l'avait promis à Abraham puis à Jacob lorsque ce dernier hésitait à se rendre en Égypte, à l'invitation de son fils Joseph, Dieu a multiplié leur descendance pendant leur séjour dans ce pays. Ils sont certes devenus esclaves des Égyptiens, mais ils constituent pour les Égyptiens une menace à cause de cette énorme croissance. Pendant les 4 siècles de leur séjour égyptien. Le pharaon décrète donc que les sages-femmes doivent jeter dans le Nil tout bébé mâle hébreu. Les sages-femmes, respectant Dieu, ne le font pas. Et Pharaon donne l'ordre à tout le peuple de faire cela, de jeter donc à tout le peuple égyptien, de jeter ses enfants mâles dans le Nil. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Dieu entend les cris de son peuple et prépare sa libération par l'intermédiaire de Moïse. Comme nous dit le livre des Actes, ses parents l'ont trouvé beau et le placent après 3 mois dans un panier étanchéifié parmi les roseaux sur les rives du Nil, probablement proche du palais de Pharaon. La sœur de Moïse, Myriam, garde discrètement son petit frère. La fille du Pharaon découvre ce panier lorsqu'elle descend se baigner au bord du Nil. Elle reconnaît que ce bébé qui pleure est hébreu et elle en prend pitié. Myriam a la présence d'esprit de proposer à la fille du Pharaon de lui trouver une nourrice parmi les Hébreux. Ce bébé, menacé par le décret de mort du Pharaon, passe soudainement sous la protection de la fille du Pharaon. Ainsi protégé, Moïse peut revenir dans sa famille et il est allaité par sa propre maman, Jochébed. Lorsque l'enfant est sevré, Jochébed le ramène à la princesse qui l'adopte et l'appelle Moïse, ce qui fait référence au fait qu'elle l'a retiré des eaux. Elle lui fait bénéficier de tous les avantages et de l'instruction à la cour royale. Rappelons ici que le peuple égyptien est à la pointe de la science et de la civilisation à cette époque. La cour du pharaon prépare certainement cet enfant à des fonctions dirigeantes dans ce pays, mais Dieu le prépare à diriger son peuple, les Israélites. À l'âge de 40 ans, Moïse a pleinement conscience, probablement déjà avant, d'être un Israélite de sang. Hébreux 11, 24 nous dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Moïse opère un choix. Il prend résolument parti pour son peuple de sang. Je lis ici le bref récit de ce changement radical, ce n'est pas le premier, qui intervient dans la vie de Moïse. Je lis dans Exode 2, les versets 11 à 16, et puis ensuite je sauterai au verset 21. Exode 2, 11. « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Je saute ici le récit. D'autres bergers viennent et veulent prendre la place de ses filles et Moïse défend ses filles. Verset 21, Moïse décida de s'installer chez le prêtre de Madian, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Longtemps après, c'est-à-dire environ 40 ans plus tard, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. À cette époque, donc à l'époque de la mort du pharaon, Moïse était le gardien des troupeaux de son beau-père Jéthro, aussi appelé Réuel, prêtre de Madian. Madian était un des 6 fils qu'Abraham eut avec Ketura, qu'il épousa après la mort de Sarah. Abraham ne regarda pas ses fils comme héritiers au même titre qu'Isaac, mais le peuple, les Madianites, étaient donc en quelque sorte de parenté lointaine avec Israël. À 45 ans, je vise à peu près cet âge, après quelques années dans le pays de Madian, et peut-être jusqu'à 80 ans, je me demande parfois ce que Moïse pouvait penser de sa vie. Quel en était le sens? Sauvé de la noyade dans le Nil pour aboutir à la cour du pharaon avec toute son aisance matérielle et intellectuelle, puis avoir voulu faire justice à son peuple opprimé, il commet un crime et doit fuir, finissant comme berger des troupeaux de Jéthro. À vue humaine, on dirait quel gâchis. À quoi bon tout ça? Le pharaon voulait en finir avec Moïse, mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Dieu avait encore un bel avenir en vue pour Moïse. Je dis « bel avenir » entre guillemets, parce que ça a été un avenir éprouvant et exigeant. La suite de la vie de Moïse le prouvera. Ceci m'apprend plusieurs choses sur Dieu. Dieu a une autre perspective de ce qui nous arrive, une perspective qui nous dépasse et que nous ne pouvons souvent pas percevoir, ni dans son sens, ni dans sa durée. Si on pense, Dieu prépare Moïse pendant 40 ans, pendant 80 ans, pour libérer son peuple. Et pendant ces 80 ans, le peuple d'Israël est en train de souffrir en Égypte de ce dur esclavage. Dieu a une autre mesure du temps. Par ailleurs, j'apprends que Dieu fait grâce. Moïse semble être rejeté par son peuple. Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Lui dit son frère. Moïse est condamné à mourir par le pharaon et réduit à l'état de misérable fugitif, mis à banc, en tout cas de la société juive, mais aussi de la société hébraïque, puisqu'il quitte son peuple pour aller dans le pays de Madian. Mais Dieu ne le rejette pas. Il ne le condamne pas. Il a encore un plan d'avenir pour Moïse, même si celui-ci ne le perçoit que très partiellement. Peut-être que Moïse était finalement content de vivre une vie tranquille à garder les troupeaux de Jéthro. C'était moins compliqué que de vivre comme hébreu à la cour d'Égypte et plus tranquille que de vouloir libérer son peuple de l'oppression des Égyptiens. Dans tout cela, Moïse avait dû vivre des conflits de loyauté. Ici, dans le pays de Madian où il se trouve, la vie est certainement plus simple. Mais comme je disais, Dieu n'en a pas fini avec Moïse. Dans son désert, Dieu suscite la curiosité de Moïse en lui apparaissant dans un buisson en feu qui ne se consume pas. Moïse fait un détour et, je lis le récit dans Exode 3, 4, à partir du verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Maintenant, je saute au verset 9, « Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Ce mot aussi, je pense que c'était un clin d'œil pour dire, Moïse, toi tu as vu l'oppression de ton peuple, les Égyptiens, moi aussi je l'ai vu. Mais vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je suis sûr que j'aurais réagi comme Moïse à ce stade, devant cet appel. Je paraphrase un peu ce qu'il a pu dire. Libérez les Israélites. J'ai déjà donné, et tu as vu comme ça a mal fini. Trouve quelqu'un d'autre. Je ne suis pas l'homme de la situation. Et puis, je bégaye, ou en tout cas, c'est connu de longue date, j'ai de la peine à parler. Et les Israélites ne voudront pas de moi et ne comprendront pas qui m'envoie. Ils ne me croiront pas. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu explique à Moïse tout ce qui se passera et lui fait même voir quelques miracles qu'il opérera pour convaincre le Pharaon. Mais Moïse ne se laisse pas convaincre qu'il est l'homme de la situation. Dieu finit par se mettre en colère et lui adjoint Aaron, son frère, qui parlera pour lui. Moïse finit donc par obtempérer et retourne en Égypte avec Séphora et ses deux fils. Suit la confrontation avec le Pharaon en place, que Moïse connaissait probablement du temps de son séjour à la cour d'Égypte. Dieu avait averti Moïse que le Pharaon n'obtempérerait pas tout de suite, car Dieu avait endurci son cœur, comme nous le rappelle le livre d'Exode, chapitre 11, verset 10. Au contraire, le Pharaon serre la vis et rend le travail des Hébreux encore plus pénible. Ben, c'est raté, pouvait se dire Moïse. Plutôt que de libérer mon peuple, je rends leur situation encore plus pénible, plus difficile. Le travail devient encore plus dur. Mais après les 10 plaies et la mort des premiers-nés des Égyptiens, les Israélites peuvent enfin quitter l'esclavage égyptien sous la conduite de Moïse après 430 ans passés dans ce pays. Le bouleversement économique que cela a dû représenter en Égypte devait être considérable. Voilà pourquoi le Pharaon revient à la charge et veut ramener ce peuple en Égypte. Les Israélites, les voyant arriver, sont dans la crainte, mais Dieu veille sur eux. Il opère plusieurs miracles par l'intermédiaire de Moïse et l'armée égyptienne, avec ses chars, est engluée, puis engloutie et noyée dans la mer des roseaux. Dans Exode 14, les versets 30 et 31, on lit ce qui suit. « Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. » Malheureusement pour Moïse, le peuple n'eut pas toujours cette attitude vis-à-vis de l'Éternel et de son serviteur Moïse. Il a fallu à cet homme des ressources extraordinaires et le secours et les conseils de Dieu pour conduire ce peuple, souvent rebelle et voulant même, parfois, plusieurs fois, retourner en Égypte, où la vie était plus simple ou plus facile, comme il disait. Avaient-ils oublié l'oppression qu'ils avaient subie et qui les avait poussés à crier à Dieu dans leur détresse? Dieu avait préparé Moïse pendant près de 40 ans à la cour d'Égypte. Puis, comme le disait un ami africain, pendant 40 ans à l'université des moutons de Jéthro. Des temps d'apprentissage si différents, si complémentaires et nécessaires pour le ministère qu'il allait confier à Moïse pendant une nouvelle tranche de vie de 40 ans. Nous avons le privilège de connaître toute l'histoire de Moïse et de pouvoir en tirer des leçons, mais lorsqu'on se trouve nous-mêmes dans des situations de bien-être comme Moïse à la cour du Pharaon, ou de privilège, ou des situations d'épreuve, comment réagissons-nous? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre aujourd'hui dans ce que je vis actuellement? À quoi me prépare-t-il? Parfois je le sais, mais souvent je ne le sais pas. Et souvent je ne le comprends pas. La seule alternative qui me reste est donc de faire confiance à Dieu. Dieu a son timing propre qui souvent nous échappe, mais lui, il reste maître de toute situation. On pourrait encore tirer bien des leçons de la suite de la vie de Moïse, mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. Amen.